Allez, c'est parti pour le pressing du jour avec Omblin Roche et avec Paul Lassen. D'abord, on jette un œil aux une de vos journaux ce matin avec un mot un peu partout ce matin. Alerte, alerte maximale, donc notamment à Lyon, à la une du Progrès, le même titre à Lille, en première page de La Voix du Nord. Alerte, là aussi, mais renforcée à Clermont-Ferrand dans la montagne. Montpellier et Toulouse, elles sont en sursis. C'est le titre de Midi Libre. Une décision sera prise lundi. Le Figaro, lui, s'intéresse à l'impact économique, ce que la crise sanitaire a déjà coûté à la France. Et aujourd'hui en France, un autre geste barrière à ne pas négliger. Ouvrir ses fenêtres, aérer chez soi, pourrait devenir, comme le masque, une arme anti-Covid. La sécurité est aussi à la une. La Dépêche du Midi qui annonce la visite de 4 ministres à Toulouse. Castex, Darmanin, Dupond-Moretti et Blanquer. Et puis là aussi, ils sont 4. 4 à la une de l'équipe. Les 4 demi-finalistes de Roland-Garros avec une statue à déboulonner. C'est le titre, celle du maître des lieux, Raphaël Nadal. Avec 3 prétendants. Schwartzmann, Tsitsipas, Djokovic. Et voici maintenant les 3 histoires que nous avons repérées en ce vendredi matin. Omblin, on commence avec vous et donc ce procès assez hors norme.
Ouais, c'est-à-dire dans Libération ce matin. Alors c'est d'abord l'histoire d'une amitié de 60 ans. Nous sommes le 3 janvier 2015 dans une bourgade d'une région rurale située entre le Luxembourg et les Ardennes belges. Clara, 84 ans, autoritaire, se rend comme tous les jours chez son amie la guillerette Suzanne, 93 ans, de vieilles dames isolées qui ont uni leur existence. Clara fait les courses, la vaisselle, trie le courrier et ce matin là, Clara part de la maison de Suzanne à 10h13. Le corps sans vie de Suzanne est retrouvé 4 heures plus tard sur le carrelage de sa cuisine jaune. L'urgentiste et les autres personnes dépêchées sur place affirment qu'elle est tombée en essayant d'attraper un pot, un accident. Mais lorsque Suzanne se retrouve sur la table des pompes funèbres, eh bien on remarque une énorme balafre sur le cou. Elle a en fait été tuée en recevant des coups de pot sur le crâne et coups de couteau. Un crime sans trace, sans larcin, sans effraction. Les maigres indices disséminés comme des petits cailloux mènent à son amie la plus proche, Clara. Quand je suis partie, elle était bien vivante, dit-elle. Et après, eh bien elle ne sait plus. En fait, elle ne se souvient plus de grand-chose d'ailleurs, Clara. Ce sont donc les témoins, avec les témoins qui reconstituaient cette matinée du 3 janvier 2015. Et les commérages vont bon train. Clara faisait surtout la chef. Elle contrôlait, elle isolait Suzanne. Est-ce que finalement, ce ne serait pas une histoire de sous? Suzanne aurait-elle décidé de changer son testament et de déshériter Clara, qui pourtant n'était pas vraiment dans le besoin? Donc avait-elle vraiment de cet argent? Bref, un crime sans éléments matériels, sans empreinte. Le mystère de la cuisine jaune. Verdict aujourd'hui, Suzanne risque quand même 30 ans de prison. Un roman noir dans Libération.
Ouais, le mystère de la cuisine jaune, j'aime bien le titre.
Ouais, c'est dans Libé.
Ouais, 89 ans. Bon, je ne sais pas à quoi elle pourra être éventuellement condamnée. C'est dur comme histoire.
C'est difficile.
Paul, c'est aussi un impact de la crise sanitaire. Les dons de sang sont en recul, avec des alertes qui sont régulièrement lancées un peu partout en France.
Oui, à la fin du mois de septembre, l'EFS, l'établissement français du sang, lançait un cri d'alerte national, car les stocks de sang commençaient à manquer. Vous l'avez dit, crise du Covid oblige. Par exemple, à Carcassonne, la pénurie de sang était si forte que les niveaux n'avaient jamais été aussi bas depuis plus de 10 ans. Alors, pour réalimenter les réserves, la Dépêche du Midi nous parle d'une opération lancée par l'établissement français du sang de Carcassonne pour inciter les locaux à venir donner leur sang. Pour chaque don de sang fait, est offert un cassoulet. Plat typique de la région, s'il en est. Depuis mercredi et jusqu'à demain soir, des chefs et des cuisiniers se succèdent dans les établissements de dons pour servir leur propre cassoulet comme collation à ceux qui viennent donner leur sang. On y trouvera des chefs assez connus de la région, Pierre Messa, Frédéric Beck ou encore Jérôme Rion, tous originaires de Carcassonne.
En plus, c'est des bons cassoulets.
Pas des cassoulets en boîte. Notre rôle en tant qu'association est d'essayer autant que faire se peut d'être utile aux autres, précise le président des Compagnons de Prosper Montagnier, un club de gastronomes et de chefs qui a contacté l'établissement français du sang pour participer à cette collecte. On le rappelle, donner son sang, c'est important, surtout en cette période de crise sanitaire. Et si vous êtes à Carcassonne, vous avez jusqu'à demain soir pour faire une bonne action et profiter d'un bon cassoulet bien chaud après.
Mais en plus, c'est important de bien manger, surtout après un don du sang pour pas tomber dans les pommes.
Pas de viennoiserie, mais un bon cassoulet.
Un bon cassoulet, là, ça tient. On est bien.
On se rattrape bien.
Moi, je vous emmène dans un lieu chargé d'histoire.
Avec le temps.
Alors nous sommes dans le Lot, à la frontière avec la Dordogne. C'est là que Léo Ferré s'était installé dans les années 60. Château de Perdrigal à Saint-Clair, bâtisse médiévale du XIVe siècle avec ses belles tourelles. Un château à vendre. Alors je vous fais la petite annonce. Charme de l'ancien, vastes espaces, 19 chambres, 17 salles de bain.
Il y a de quoi accueillir.
Il y a de la place. C'est là que Léo Ferré composait, écrivait. Il s'était installé notamment avec son chimpanzé, Pépé. Et c'est là qu'il rencontra sa future femme, Marie-Christine Diaz, avec laquelle ensuite il quittera la région. On apprend sur le site du Figaro que le château a ensuite été laissé à l'abandon pendant des années. Et que c'est un homme d'affaires franco-américain qu'il a repris, qu'il a rénové. Et désormais, alors il y a cours de tennis et piscine, donc on est vraiment bien. Il y a même des vignes qui produisent du merlot. Bon, sur le papier, ça a l'air pas mal, mais ça fait 2 ans que le propriétaire cherche à le vendre et qu'il ne trouve pas preneur. Du coup, le domaine va être mis aux enchères, ce sera mardi prochain, le 13 octobre. Vente en ligne pendant 72 heures. Prix de départ, selon le Parisien, on ne sait jamais si vous voulez vous positionner. Allons-y. Autour de 4,5 millions d'euros.
Ah ben j'y vais.
Voilà. Ouais. Vous de jouer.
T'es toute nue sous ton pull, y a la rue qui est ma boule, joli môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme.
Valérie Do sur le pressing de ce vendredi.
Merci.
Merci à tous les deux.